Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le suspect de l'attentat de Lyon il y a tout juste une semaine reconnaît les faits, reconnaît avoir placé le colis piégé devant la boulangerie de la rue Victor Hugo. 14 blessés, nouveau bilan donné ce matin. Ce que l'on sait du profil de suspect et de l'attaque dans un instant avec l'Aurélie qui arrive. Autre propos du procureur Rémi Yates qui donnait ses informations à propos de Lyon ce matin. Il parle aussi des policiers auteurs de violences lors des manifestations de gilets jaunes. Ils seront poursuivis, dit Rémi Yates. Des lampistes vont payer, redoutent déjà des syndicats de policiers. Deux avis sur ce débat dans ce journal. Maître Liénard, qui défend beaucoup de policiers, et David Dufresne, le journaliste qui s'est battu pour que ce qu'il considère comme des violences policières ne soit pas enterré. Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de près de 6% demain. L'association de consommateurs CLCV parle d'une faute du gouvernement. Son délégué général est notre invité. Dans ce journal encore, interdit de fumer sur deux plages de La Rochelle et plus de 50 squares et jardins à Paris à partir d'aujourd'hui. Même au grand air, la cigarette est de plus en plus mal vue. L'actualité internationale, la tension monte d'un cran entre Iran et Arabie. L'Iran mène des actions criminelles dans la région, dit le roi d'Arabie. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Bruno. L'Arabie Saoudite voulait isoler l'Iran, oui, pardon, sur la scène régionale et c'est chose faite avec ses sommets et un soutien de ses alliés arabes.
Et on vous retrouve en détail tout à l'heure, Aurélien. L'actualité plus légère, nous irons à Roland-Garros. Federer sur le court et aussi un des Français les plus attachants, Nicolas Mahut, 37 ans et son fils dans les bras après chaque victoire. Il y a quelques minutes, chez les filles, élimination de Pliskova. Un week-end de sport et de culture. Isabelle Pasquier nous emmène à la Fondation Carmignac de l'art contemporain sur l'île de Porquerolles. Et puis la météo, c'est très important en ce week-end de l'Ascension. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Il commence drôlement bien ce week-end.
Oui, hormis des cumulus qui se développent cet après-midi entre la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, jusqu'en Bourgogne et au Nord-Alsace, le temps se passera sous le Saint-Soleil radieux aujourd'hui. Et puis avec ce temps ensoleillé, les températures vont s'envoler, variant de 22 à 29 degrés. On va aussi atteindre 30 degrés pour la première fois de l'année entre l'Aquitaine et l'arrière-provençale.
Et Météo France nous dit que ça va durer tout le week-end.
Oui, la chaleur va encore monter d'un cran demain. Les 30 degrés seront aussi atteints, voire dépassés. Passé sur la moitié nord, comme à Paris, Tours et Nantes. Sur le sud, des pointes à 33, voire 34 degrés sont attendues, dans le sud-ouest notamment. Côté ciel, hormis quelques brumes matinales qui disparaîtront très rapidement, la journée se passera sous le soleil, et puis la journée de dimanche sera encore plus chaude et encore plus ensoleillée, avec tout de même l'arrivée d'une perturbation sur la Bretagne.
Alors on en profite au Sable d'Olonne par exemple.
Ça fait du bien, effectivement, je crois que c'est la première fois que je suis torse nu depuis longtemps, ouais. Première fois de l'année peut-être, ouais.
On pique une petite tête.
Non, elle est bonne. Franchement, elle est bonne, regardez.
Vous êtes resté combien de temps?
Non, ça va, hein. 3 minutes. J'ai mis la tête quand même.
Allez, bonne baignade si vous en avez le courage. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. C'était il y a une semaine, rue Victor Hugo, en plein centre de Lyon, un nouvel attentat en France. Moins meurtrier que d'autres, évidemment, 14 blessés, mais le rappel que la menace est présente constamment. Bonjour Aurélie qui arrive.
Bonjour.
Une semaine après, la garde à vue du principal suspect algérien, 24 ans, s'est achevée ce matin. Il va être présenté à un juge, il a reconnu les faits.
Oui, en garde à vue, le suspect avait commencé par nier avant d'admettre que oui, c'est bien lui, vendredi dernier, qui a déposé une bombe artisanale devant la boulangerie d'une rue piétonne de Lyon. C'est Algérien de 24 ans, inconnu jusqu'ici des services de police et de renseignement, dit avoir prêté allégeance en son fort intérieur au groupe État islamique. L'historique de ses recherches sur Internet atteste d'un intérêt certain pour les thèses djihadistes. C'est d'ailleurs sur Amazon qu'il a commandé il y a 3 semaines, le 7 mai, les piles qui lui ont servi à confectionner l'engin explosif, ce qui a permis aux services de l'antiterrorisme d'obtenir son adresse. Chez lui, à Oullin, dans la banlieue lyonnaise, les enquêteurs ont découvert dans la cuisine de l'eau oxygénée, de l'acide chlorhydrique, deux éléments susceptibles d'entrer dans la composition du TATP. Et puis dans les poubelles de l'immeuble, des fils électriques, des vis, des billes d'acier similaires à ceux qui ont été retrouvés sur le lieu de l'explosion. Précisons enfin peut-être aussi que les gardes à vue des parents et du frère du suspect, elles, ont été levées hier. Rien ne permet de les mettre en cause à ce stade, selon le parquet de Paris.
Merci Aurélie qui arrive. Dans l'actualité judiciaire, encore le réquisitoire au procès de Yann Bailey, accusé du meurtre de Sophie Toscan du Plantier. 30 ans de réclusion sont requis contre Yann Bailey. Non, le parquet de Paris ne cherche pas à enterrer les dossiers de policiers accusés de violence lors des manifestations de gilets jaunes. Rémi Yates donne quelques chiffres dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Ce matin, depuis le début du mouvement, le 17 novembre, 2448 personnes ont été blessées côté manifestants. 1797 parmi les forces de l'ordre, 171 enquêtes confiées à la police des polices, 3 à l'inspection l'inspection générale de la gendarmerie. Enquête terminée dans 57 cas, le parquet doit maintenant décider des suites. 8 dossiers ont pour l'instant été transmis à des juges d'instruction. Il y aura des renvois de policiers devant le tribunal correctionnel d'ici à la fin de l'année, dit Rémi Yates. La justice passera dans ces affaires comme dans toutes les autres. Laurent-Franck Liénard est avocat, spécialiste de la défense des policiers.
La police ne redoute pas les poursuites qui seraient lancées contre elle, évidemment. Les policiers, lorsqu'ils ont fait usage de la force, ils estiment normal que la justice puisse vérifier la légitimité de leurs actes. Ce qui nous inquiète, c'est le ton du procureur de la République qui laisse percevoir la marque d'une volonté d'exemplarité. J'ai peur que certains policiers servent de fusible, que certaines affaires soient traitées de manière trop exemplaire, de manière à montrer au peuple français que la justice n'affiche pas d'impunité à l'égard des policiers.
Autre analyse après ces déclarations, David Dufresne, le journaliste qui recense minutieusement tout ce qu'il considère comme des violences policières.
Des manifestants ont été et sont lourdement condamnés à tour de bras dans des comparutions immédiates, tandis que des policiers, eh bien pour l'instant, aucun ne fait l'objet de condamnation. Depuis des mois, les syndicats de police, hormis certains, ont tout à fait accepté cette doctrine, ce nombre de tirs colossaux, de tirs tendus, de gaz lacrymogène, etc. Moi, je comptabilise 128 personnes qui ont été touchées, soit aux parties génitales, soit à la tête par des LBD. Et donc aujourd'hui, effectivement, vous avez un procureur qui est obligé de dire, évidemment qu'il va y avoir des procès, ça fait des mois qu'on le dit.
Voilà, et ce débat était arbitré par Laurélie Carive à mes côtés et Yann Gallic.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 5,9% demain. Cette hausse avait été gelée en pleine crise des gilets jaunes. Voilà le boomerang. À droite, cette semaine, Xavier Bertrand a sorti l'artillerie lourde. Le prix du carburant est au-delà de ce qu'il était au début de la crise des gilets jaunes, dit le président de la région Hauts-de-France. Et maintenant, l'augmentation du prix de l'énergie sans rapport avec la hausse des salaires. Est-ce qu'ils attendent au gouvernement que les gens se remettent en colère? L'État s'en fout plein les poches. Le gouvernement répond sur le thème halte à la démagogie. Mais Emmanuel Wargon, la secrétaire d'État à la transition écologique, pose tout de même un jalon. Il n'est pas souhaitable qu'il y ait une nouvelle hausse de l'électricité en août. C'est en effet évoqué. Bonjour François Carlier.
Bonjour.
Délégué général de l'association de consommateurs CLCV. Vous, à propos de cette augmentation demain, vous parlez carrément de faute?
Oui, parce qu'en fait, la Commission de régulation de l'énergie admet elle-même que sur les 6%, il y a à peu près 3%, c'est l'augmentation des coûts d'EDF. Alors, oui. On peut discuter, etc., etc., mais bon, il y a 3%.
D'ailleurs, c'est un des arguments du gouvernement. Allons tout de suite là-dessus. Est-ce que EDF pourrait faire des économies, ce qui permettrait de moins augmenter le prix de l'électricité?
Bien sûr, ça peut. Donc, ça fait partie de la discussion. Mais le point le plus central, c'est que le passage de 3 à 6 n'a rien à voir avec l'évolution des coûts d'EDF. C'est simplement que les opérateurs alternatifs, les concurrents, ont des problèmes d'accès au nucléaire, qui est moins cher, donc ils ont des surcoûts, et que la Commission de régulation de l'énergie a considéré que il faut les aider, parce qu'ils ont des surcoûts, pour que la concurrence continue de survivre, et donc pour les aider, on augmente le tarif d'EDF, comme ça, ça permettra d'augmenter le tarif des alternatifs, pour qu'ils soient encore viables. Je résume, pour faire vivre la concurrence, il faut faire augmenter les tarifs. Je suis désolé, d'habitude...
C'est un paradoxe, oui.
C'est un paradoxe qui est assez... Alors, en soi, intellectuel amusant, mais effectivement problématique parce que c'est tout à fait injuste.
Le gouvernement dit c'est pas nous qui fixons les tarifs de l'énergie. Est-ce qu'il est obligé de suivre? Est-ce qu'il pourrait dire non, on n'augmentera pas les tarifs?
Alors,
de votre point de vue.
En temps normal, effectivement, la Commission de régulation de l'énergie rend un avis et c'est très difficile à l'État de s'y opposer. Sauf si cet avis paraît très infondé, y compris juridiquement. Alors, il n'y a pas que la CLCV et l'UFC Que Choisir qui contestent juridiquement cette mesure. Il y a l'autorité de la concurrence, parce que là, c'est sur une question de régulation de la concurrence, qui a émis un avis en janvier et en mars, deux fois, pour dire... ce qu'a fait la Commission de régulation de l'énergie, c'est pas bon, c'est juridiquement très fragile, nous recommandons à l'État de ne pas la suivre. C'est-à-dire que l'État avait quand même des moyens, au-delà même de ce que disent les associations, pour dire à la CRE, non, là, stop, je m'y oppose, je pense qu'ils auraient dû au moins essayer de le faire. Nous, avec l'UFC Que Choisir, on avait écrit au président Macron au fin avril pour qu'il fasse cela. On n'a même pas eu de réponse d'ailleurs du président.
Est-ce que vous pensez obtenir gain de cause puisque vous portez l'affaire devant le Conseil d'État pour que ça n'augmente pas demain?
Écoutez, effectivement, CLCV, UFC, que choisir? On va devant le Conseil d'État au cours du mois de juin et puis on espérera avoir une décision plus tard. Bon, on n'y part pas vraiment du tout pour simplement par principe, c'est-à-dire on espère vraiment gagner. Maintenant, l'aléa judiciaire est ainsi fait. C'est une situation qui est totalement inédite. En fait, c'est un des problèmes qu'on a, c'est que...
Pourquoi inédite?
Inédite parce que c'est la première fois que on alloue en fait de l'électricité nucléaire aux alternatives jusqu'à une certaine limite. Et là, ils ont dépassé cette limite et ils ont des surcoûts. Or, on pensait pas que ça arriverait. On pensait que les alternatives allaient développer leur propre capacité de production. Ce qu'ils n'ont pas fait, d'ailleurs, au demeurant. Mais donc, on se retrouve dans une situation qui n'a pas vraiment été anticipée par le législateur. Donc, la Commission de régulation de l'énergie, de bonne foi, a fait son raisonnement. Alors, un raisonnement que nous, on trouve très injuste. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est assez inédite. Et donc, je ne sais pas du tout ce que dira le Conseil d'État.
À moyen terme, que faut-il faire, François Carlier? On change le calcul, mode de calcul de l'électricité auquel le simple citoyen qui légitimement pourrait dire j'aimerais comprendre pourquoi ça augmente de 6% a du mal à comprendre même quand on se plonge dans le dossier.
Oui, alors je vais être franc. Encore la CLCV, il y a plein de libéralisations de marché qu'on accompagne avec force. C'est le cas par exemple du gaz qui nous pense être relativement viable et de plein d'autres marchés dans lequel l'électricité, la question du nucléaire a toujours fait que cette libéralisation nous a paru fondamentalement difficile et bancale. Alors le fait qu'on soit 12 ans après de la libéralisation à tricoter, vous voyez, des mesures, des polémiques montre bien que c'est tout à fait bancal. J'ose dire que en Europe on a imposé la libéralisation partout, d'accord. Aux États-Unis, ils ont laissé la compétence aux États. Il y a à peu près la moitié des États qui n'ont pas libéralisé. Le Québec n'a pas libéralisé, notamment quand ils ont comme ça une production pas chère qui existe, pour l'instant en tout cas, qui est le cas du nucléaire.
En précisant, ce sera ma dernière remarque, dernière question, qu'on a plutôt un prix de l'électricité plus bas avec un service de qualité par rapport à nos petits camarades européens.
Alors tout à fait sur le service de qualité, tout à fait pour les prix plus bas par rapport aux camarades européens. Par contre, si on regarde par rapport aux États-Unis, au Canada, il y a des endroits où c'est moins cher.
Merci beaucoup François Carlier d'être venu dans les studios de France Inter et on suivra évidemment le sort de la plainte déposée auprès du Conseil d'État. En tout cas, cette crise des gilets jaunes qui avait amené à geler la hausse du prix de l'électricité a amené à geler une bonne partie de l'action du gouvernement et du coup, la pile de dossiers sur la table est assez impressionnante dans les semaines à venir. Parmi les dossiers, il y a la révision constitutionnelle qui avait été aussi gelée par l'affaire Benalla. La revoici et dans cette fameuse révision de la Constitution voulue par Emmanuel Macron et détaillée ce matin par nos confrères du Monde, au rayon pas de surprise, eh bien il y a la limitation du nombre de parlementaires, on sera autour de la baisse d'un quart du nombre de parlementaires, la proportionnelle autour de 15-20%, et puis Cyril Graziani, au rayon confirmation également l'écologie au cœur du texte qui devrait être présenté fin juin, début juillet au Conseil des ministres.
Et peut-être parlerons-nous bientôt d'une république écologique. Article 1er, la République agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques. C'était une demande à l'époque d'un certain Nicolas Hulot quand il était ministre. Et bien les Européennes ont conforté l'exécutif dans la nécessité de verdir la Constitution. Au rayon évolution, le référendum voulu par Emmanuel Macron, voulu par le président, pourrait être élargi aux réformes relatives aux questions de société. Quant au référendum d'initiative partagée, le fameux RIP, le gouvernement, conformément aux souhaits du chef de l'État, propose qu'il soit déclenché à l'initiative d'un dixième de parlementaires et soutenu par 1 million d'électeurs. Nouveauté, c'est une initiative qui pourra provenir d'un côté comme de l'autre. Néanmoins, les conditions sont durcies. Le RIP ne pourra pas avoir pour objet l'abrogation d'une disposition promulguée depuis moins de 3 ans, contre 1 an jusque-là, ni d'une disposition en cours de discussion au Parlement. Le tout récent précédent avec ADP a visiblement laissé des traces. Et cette réforme constitutionnelle passera nécessairement par le Sénat. Le président LR Gérard Larcher en avait fait son cheval de bataille, mais les résultats des Européennes et le gouffre dans lequel sont tombés les Républicains ont peut-être changé la donne. Pour autant, le gouvernement est prêt à faire quelques gestes en direction des sénateurs pour que sa réforme voie enfin le jour.
Fera-t-on un pas de plus vers le mariage Renault-Fiat la semaine prochaine? Le conseil d'administration de Renault se réunira mardi pour répondre à l'offre de Fiat Chrysler. C'est une réelle opportunité pour l'industrie automobile française, dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Après les bureaux, les restaurants, les quais de gare, la cigarette est de plus en plus bannie de lieux publics à l'air libre. Des plages, deux à La Rochelle à partir d'aujourd'hui, et des parcs. La mairie de Paris, saisit l'occasion de la journée mondiale sans tabac aujourd'hui pour lancer une nouvelle étape. Cigarettes désormais bannies de 52 parcs et jardins à Paris, 10% des espaces verts de la capitale. Si vous voulez le détail, la carte est sur le site paris.fr. Alors, est-ce une mesure utile ou est-on en train d'enquiquiner les fumeurs pour des retombées minimes en termes de santé publique? Avis d'une fumeuse, vous vous doutez de la réponse. Fumeuse parisienne dans un parc du 15e arrondissement, elle s'appelle Bettina.
C'est excessif, on vit dans une ville stressante. Je trouve que focaliser autant sur la cigarette m'étonne, mais c'est cohérent avec l'ambiance globale. C'est une habitude de fumer. Donc le parc, aller dans un parc, fumer une cigarette, oui, ça peut être un plaisir.
Cette dame au micro de Rémi Brancato, là aussi on se doute de la vie, il est détaillé. Celui de Philippe Basset, le vice-président de l'Association nationale de prévention en addictologie, il défend cette mesure d'interdiction de cigarettes dans les parcs et à tous égards.
Alors c'est une très bonne mesure parce que ça participe à la dénormalisation du tabac. C'est aussi une bonne mesure parce qu'elle fait appel au civisme. Et puis, c'est une mesure pour l'environnement. C'est très long à se dégrader un mégot de tabac, ça prend 25 ans. Hein. Alors évidemment, le tabagisme passif est moindre en plein air que dans une pièce fermée. Mais il y a du tabagisme passif. Si on fume à côté d'enfants, évidemment, la fumée se diffuse un peu quand même. Ce qu'on vit, c'est une génération sans tabac. Donc, on met des obstacles. On a empêché de fumer dans les tabacs, les restaurants. Ça s'est finalement bien passé. De plus en plus de gens essaient d'arrêter de fumer, ont du mal, et leur mettre des obstacles, c'est les aider en fait.
Propos tenu ce matin sur France Info, dans les parcs et jardins parisiens dont la cigarette est bannie, l'amende sera de 38 euros si vous êtes pris à fumer à partir du 1er juillet. Alors il y a les mesures de prévention du cancer, lutter contre le tabagisme par exemple, et puis les moyens de le soigner. Véronique Julia assiste pour France Inter au congrès mondial du cancer à Chicago. 45 000 oncologues du monde entier y sont réunis jusqu'à mardi et ils dressent ce constat. L'immunothérapie comme moyen de soigner le cancer se banalise. Cette approche qui consiste à stimuler les globules blancs du patient pour qu'ils aillent tuer les tumeurs, on bat des records d'études cliniques et de plus en plus de patients sont pris en charge, Véronique.
Déjà quelques dizaines de milliers de patients traités en France et ce n'est qu'un début. D'année en année, on soigne plus de patients et plus de cancers. L'immunothérapie est maintenant utilisée en traitement standard dans le cancer du poumon, du rein, dans les cancers ORL et dans le mélanome. D'abord employée en cas de rechute quand les traditionnelles chimio ou radiothérapie ne marchaient pas, l'immunothérapie est même utilisée dans certains cas désormais dès le diagnostic. Aurélien Marabel est oncologue à Gustave Roussy et président de la toute nouvelle société française d'immunothérapie.
On a de l'immunothérapie par exemple en France, en première ligne des cancers du poumon pour certains patients. Et demain, en première ligne des cancers du rein, on aura aussi de l'immunothérapie.
Avantage de l'immunothérapie, les effets secondaires sont moins dévastateurs que la chimio. Pas de nausées, pas de chute de cheveux. Une multitude de nouveaux médicaments sont à l'étude. On les combine de plus en plus pour plus d'efficacité. L'immunothérapie peut détruire la tumeur et ses métastases, mais parfois aussi les réduire ou même simplement bloquer leur évolution et les effets semblent durables.
On commence à avoir ce recul-là de patients qui ont eu de l'immunothérapie pendant un an, deux ans. On arrêté parce que d'un point de vue protocolaire, c'était prévu comme ça, et derrière, n'ont pas rechuté de leur cancer. On est à un an, deux ans, trois ans de suivi, et le cancer ne revient pas.
Reste des questions, pourquoi les deux tiers des patients, ainsi que certains cancers comme la prostate ou le pancréas, ne répondent pas du tout à l'immunothérapie? C'est un enjeu de recherche. La technique provoque également, dans une minorité de cas, des maladies auto-immunes, comme une dépigmentation cutanée ou des problèmes de thyroïde notamment. À Chicago, Véronique Julia, France Inter.
Cette région est un baril de pétrole, la crainte est qu'elle se transforme en baril de poudre. D'un côté du golfe Persique, l'Iran, de l'autre l'Arabie Saoudite, et le ton monte encore d'un cran entre les deux rivaux régionaux. Pas moins de 3 sommets internationaux en cette fin de semaine en Arabie. Je vous rappelle le contexte, la guerre à distance entre les deux puissances au Yémen, des attaques contre un oléoduc il y a quelques jours en Arabie et des sabotages de navires dans le golfe Persique. À la Mecque, le roi d'Arabie, Salman, accuse l'Iran d'actions criminelles dans la région. Aurélien Colli, vous êtes notre correspondant dans la région. Comme promis, vous êtes en direct, la bataille psychologique continue et passe un cap, Aurélien.
Oui, Bruno, l'Arabie Saoudite voulait isoler l'Iran sur la scène régionale avec ses 3 sommets en 48 heures, pays du Golfe, Ligue arabe et conférence islamique. Eh bien, c'est chose faite. Et vous le disiez, c'est le roi Salman lui-même qui s'est chargé du réquisitoire contre le grand rival chiite en dénonçant ses ingérences, ses capacités nucléaires et balistiques, ses attaques contre les installations pétrolières saoudiennes via les rebelles yéménites houthis, ses sabotages aussi de navires à l'entrée du Golfe à la mi-mai, autant de menaces à la stabilité régionale et à l'approvisionnement en pétrole du marché mondial. mal, selon le roi d'Arabie, qui a usé de toute son autorité et de toute l'influence de son royaume pour que ce grief soit repris par les pays du Golfe et ceux de la Ligue arabe dans leur communiqué final. Résultat, un communiqué décommuniqué à charge auquel seul l'Irak a refusé de se joindre pour préserver ses bonnes relations avec Téhéran. Dans le Golfe, le Koweït, le Qatar et Oman sont un peu dans la même situation, mais eux n'ont pas osé s'opposer aux puissants voisins saoudiens. Alors ce matin, l'Iran a réagi en accusant l'Arabie saoudite de semer la division au Moyen-Orient au profit d'Israël et des Américains. Le week-end dernier, Téhéran avait proposé un pacte de non-agression aux monarchies du Golfe. Il n'a même pas été évoqué à la Mecque.
Aurélien Collier en direct de Beyrouth, l'actualité en Europe et le voyage du pape François en Roumanie. Et cet hommage ce matin au sacrifice des millions d'émigrés roumains en quête d'une vie meilleure. Je leur rends hommage, eux qui par leur culture, leurs valeurs et leur travail enrichissent les pays où ils ont émigré, déclare donc ce matin le pape au premier jour de ce déplacement. C'est l'heure de notre tour quotidien Roland Garros. Bonjour Jean-Pierre Blimaud.
Bonjour.
Lucas Pouille qui dispute le 5e set en ce moment.
Oui, Lucas Pouille qui était mené 2-7 à 1 et 3 jeux à 1 dans la quatrième manche hier soir. Le match avait été interrompu. Lucas Pouille s'est remis la tête à l'endroit puisqu'il a obtenu le droit de disputer une cinquième manche décisive. Il a gagné 6-3 ce quatrième set et pour l'instant les deux joueurs sur le central sont à égalité un jeu partout. Martin Klizan, le Slovaque qui a montré hier à Lucas Pouille qu'il ne serait pas facile de le battre, et bien est au service actuellement. Il va y avoir d'autres matchs intéressants aujourd'hui, notamment sur le central tout à l'heure avec Raphaël Nadal contre David Goffin, sur le court Suzanne Lenglen, Roger Federer contre Casper Ruud. Un autre Français est en train de jouer actuellement, c'est Benoît Paire face à l'Espagnol Carreño Busta. Benoît Paire a fait le break et il mène 5-2 dans la première manche. On attend un autre Français tout à l'heure en fin de journée, le jeune Corentin Moutet, 20 ans, face à Juan Ignacio Landero l'Argentin, tombeur de Richard Gasquet, et puis sans oublier Nicolas Mahut, le vétéran français.
Et Nicolas Mahut, tiens, parlons-en. Nicolas Mahut, l'un des joueurs français les plus attachant et une des images marquantes de ce début de tournoi, eh bien c'est lui saluant les spectateurs sur le court, son fils dans les bras. À 37 ans, Mahut va donc disputer le troisième tour tout à l'heure. Il s'est qualifié pour ses 16e de finale. Et Fabrice Abgral, vous lui rendez un coup de chapeau.
Il est radieux, comblé d'être là encore dans le tournoi alors qu'il y a 3 semaines il avait le dos bloqué et qu'il avait même envisagé de déclarer forfait. Nicolas Mahut n'est certes qu'au 3e tour mais ça lui suffit pour être heureux. Évidemment, il n'envisage pas de gagner le tournoi mais à 37 ans, l'Angevin vit cette année son plus beau Roland Garros. Il est parfaitement conscient que ce parcours est inattendu, presque inespéré. C'est pourquoi aujourd'hui, plus qu'avant, Nicolas Mahut savoure cette présence au 3e tour.
J'essaye vraiment de savourer à 100%, peut-être plus maintenant que mes premiers parce que je sais que ça sera certainement le dernier. J'essaye vraiment d'être dans le moment présent, de profiter quand je suis sur le court, quand je gagne, quand il y a le public qui est debout et qui m'applaudit. Finalement, ça arrive ici, c'est une belle récompense.
Et après chaque victoire, c'est la même routine. Nicolas Mahut va chercher son fils, Nathanaël, dans les tribunes pour le faire pénétrer sur le court et partager avec lui son bonheur.
Je suis très ému à chaque fois que je le vois rentrer, je vois sa fierté dans les yeux et je pense que quand on est papa, c'est plus important. J'aurais partagé ça au moins avec lui, je sais qu'il s'en souviendra encore même quand j'aurai arrêté. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, je m'en excuse, mais en tout cas, pour moi, c'est très fort.
Et à coup sûr, s'il s'impose aujourd'hui, Nicolas Mahut fera revenir son fils sur le court pour célébrer sa qualification en 8e de finale, ce qui serait pour lui une première à Roland-Garros.
Voilà, Nicolas Mahut qui jouera donc tout à l'heure et également sur le court aujourd'hui, Roger Federer face au Norvégien Ruud. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal pour aborder différemment l'actualité de l'économie, de la vie quotidienne ou de la culture. Culture cette semaine. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour Bruno.
Isabelle, vous avez testé les nouveautés de la Fondation Carmignac de l'art contemporain sur l'île de Porquerolles.
Alors visiter cette fondation tient vraiment de l'expérience initiatique. Pour y aller, on largue les amarres et le stress, on prend le bateau à Porquerolles. Et on marche au milieu des eucalyptus jusqu'à la fondation. C'est une ancienne maison de pierre que l'on voit d'ailleurs dans Pierrot le Fou de Godard. Après une tisane, le rituel commence.
Première étape du rituel, on pourrait vous demander de vous déchausser et la visite se fait pieds nus.
Voilà, on se déchausse. C'est Charles Carmignac qui est le jeune directeur de la fondation.
Ce qui nous différencie, c'est principalement le fait d'être sur une île, pas n'importe laquelle, c'est une forêt en pleine mer, donc c'est une forêt qui est préservée, c'est un parc national. Et au cœur de cette forêt est nichée la fondation, donc c'est un lieu qui est très spécial, qui n'est pas anodin. Et c'est des conditions de visite qui sont très spéciales également, puisqu'on visite le lieu à 50 personnes par demi-heure maximum, avec la possibilité d'être parfois seul face à une œuvre. Et à l'intérieur, on est pieds nus. Déjà, ça amène une sorte de silence. Il n'y a pas le contact comme ça entre les semelles et le sol. Et puis, c'est un état d'esprit qui est différent. Et puis on est en contact avec une pierre qui est très texturée, très nervurée et qui fait circuler un peu les énergies.
À l'intérieur, donc, on se laisse traverser par les vibrations des œuvres qui sont rassemblées cette année sous le thème de la source. Avec les poissons volants de Bruce Nauman, l'immersion dans le monde sous-marin de Miguel Barcello, les nuages gris infinis de Gerhard Richter, plus charnel, une femme sexy inquiète de Liechtenstein, à côté d'une œuvre féministe d'Annette Messager, Mon corps, mes seins. À l'étage, une expo d'une artiste punk, Sarah Lucas.
C'est assez punk, hein, c'est une exposition sur la source. On ne voit pas des tableaux classiques avec des nymphes qui jouent au bord de l'eau. On termine par Sarah Lucas, cette artiste britannique, jambes tout ouvertes, en jean, elle est punk. Hein. Elle habitait le pavillon britannique à la Biennale de Venise en 2015. Elle a commencé par un concert punk.
Plus new age à l'extérieur des œuvres au milieu des oliviers et les soirs de pleine lune. On peut carrément faire un parcours sonore dans la nature. On est seul avec comme guide les voix de Charlotte Gainsbourg et de Patti Smith.
Nous nous enfonçons dans la couleur noire des bois. La pupille de votre œil se dilate.
Très impressionnant, très saisissant.
Alors à minuit, je peux vous assurer que j'étais complètement paumée au milieu de l'île parce que j'étais tellement fascinée par ces voix. Et on était sous les étoiles, c'était merveilleux et j'ai pas compris du tout, je devais aller, peu importe. C'était complètement magique. En tout cas, c'est une fondation, vous l'avez compris, où on ne consomme pas les œuvres d'art à toute vitesse comme des produits jetables. Allez-y, même à la nage.
La fondation Carmignac, c'est donc sur l'île de Porquerolles. Merci beaucoup, beaucoup Isabelle Pasquier et d'autres idées culture loin de Paris. Ce week-end, Sans paix en liberté au musée Mer et Marine de Bordeaux, le printemps des comédiens à Montpellier, musique métisse à Angoulême ou le Festival du Livre à Nice. À propos de livres, le 42e prix du Livre Inter. À la toute fin de la semaine prochaine, ce sera le verdict. D'ici là, les 10 auteurs en cours évoquent leur livre, ce qui les a guidés, motivés, inspirés au micro d'Eva Béton. Aujourd'hui, Philippe Vassé. Son livre s'appelle Une vie en l'air. Il est publié chez Fayard. Il tourne autour d'un lieu, une ruine industrielle, une longue ligne de béton qui devait servir de rampe à un aérotrain. Projet abandonné. Ce qui demeure, c'est la force évocatrice et magique du bâtiment.
Moi, je disais que c'était une histoire d'amour avec un bloc de béton de 18 km de long, en fait. À n'importe quel âge de ma vie, je suis toujours revenu à ce lieu-là. Parce qu'une des raisons pour lesquelles ce site est une drogue dure, c'est qu'il transforme votre corps. Enfin, en tous les cas, il a transformé le mien.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, vous êtes dans une région très très plate, la Beauce. Le rail est à 10 mètres de hauteur. Quand vous montez dessus, vous voyez extrêmement loin. Tout autour de vous, les champs sont recouverts de tiges, en fait, qui vibrent, exactement comme les poils qui sont à l'intérieur de vos oreilles, en fait. Et donc, du coup, votre audition se retrouve augmentée, exactement comme votre vue est augmentée par ce surcroît, en fait, de portée que vous donne le site. C'est un lieu qui m'a transformé.
Alors, ce lieu, il est aussi daté d'une époque, des années 60. C'est la France de Pompidou.
Ouais. C'est tout ce que les années 60 ont rêvé d'être, conquérants, techniques, qui partiraient à l'assaut du monde, qui remembreraient le territoire, qui domineraient le temps, qui domineraient l'espace. Et c'est l'échec de tout ça. Et moi, j'aime bien être dans la ruine de ça, parce que du coup, ça vous permet de prendre toute cette utopie techniciste qui est encore très prégnante aujourd'hui, avec un petit peu de distance. Et puis surtout, il y a quelque chose de moi que je trouve infiniment jouissif, c'est d'avoir passé mon temps à bâiller aux corneilles dans un lieu qui, en fait, était un lieu vraiment de la technologie conquérante, du travail, de la vitesse. Et donc, moi, j'ai paraissé au soleil pendant des années sur cette ruine du futur.
Qu'est-ce qui fait que ce sont les marches qui vous intéressent ? C'est pas la voie principale, c'est l'endroit abandonné.
Tous ces endroits-là, en fait, permettent de déjouer la programmation de l'espace, la programmation des esprits, la programmation du paysage, de reprendre un petit peu l'initiative. C'est des lieux qui donnent la possibilité de ne pas être toujours dans les plans d'un autre. C'est des lieux qui vous permettent de vous confronter à vous-même. C'est des lieux où on est à la fois plus réceptif, plus dénudé. Ce n'est pas des lieux préprogrammés.
Philippe Vassé, l'auteur d'Une vie en l'air chez Fayard. Les débuts de chaque roman en course pour le prix du Livre Inter sont à lire sur franceinter.fr.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas.
Avec un soleil généreux, les températures s'envolent, dépassant les normales de saison. Cet après-midi, les maximales varient de 19 à 27 degrés sur la moitié nord, mais des pointes à plus de 30 degrés sont attendues sur le sud. C'est d'ailleurs la première fois de l'année que le mercure dépasse les 30 degrés. Les régions concernées par ces pointes à 30 degrés sont l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et l'intérieur de la Provence. Les températures de demain seront encore plus chaudes et les 30 degrés seront aussi dépassés sur la moitié nord. Cet après-midi, le soleil règne sans partage de la Bretagne aux Pyrénées et des régions méditerranéennes à Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'en Franche-Comté et au sud Alsace. Ailleurs, les éclaircies sont belles, mais le ciel est un peu plus variable à cause de petits développements nuageux sans conséquence. Ces nuages sont tout de même un peu plus étendus vers la Lorraine. Demain, les nuages seront plus discrets et le soleil sera encore plus généreux.